à Fleur F
106.2
et sur radio.esperanza.be.
On est là. Vous êtes là? Moi je suis là. Tu es là?
C'est bon.
Bonjour, c'est Lisette. Il est un peu plus de 17h40. Nous sommes à Fleur F en direct du Festival Esperanza. C'est la première de Possible en notre Possible version 2015. Et pour cette nouvelle édition, je suis accompagnée à l'animation par Cam, dont vous avez découvert la douce voix pendant la prise d'antenne hier et le mini-lunch et Big Tapas de ce midi. Bonjour Cam.
Bonjour Lisette, bonjour tout le monde.
Comment on se sent pour cette première de Possible?
Eh bien écoute, on se sent pas mal. Les stands ont été finis dans la nuit et dans la matinée. Le résultat est très chouette. Tout est en bois récupéré, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'aller voir à quoi ça ressemble. Il y a notamment un joli bateau, un bateau pirate ou bateau normal, je ne sais pas, qui est installé au milieu du village. Et c'est là que se tiendront les AG. Mais ça, on va en reparler tout à l'heure avec un de nos invités qui vient de nous rejoindre sur le plateau.
Et du coup, on lance le jingle.
Mon petit lapin, j'aime tes grandes oreilles, tes petites quenottes et ta queue en pompon.
Mon petit lapin, à notre monde. Possible, notre possible.
Mon petit lapin, tu es mon seul ami. Tu ne me dis rien, mais je sais que tu m'aimes aussi.
Nous voilà donc à Esperanza, où les gens se croisent et se regardent. Parfois même, ils se parlent et se sourient, même qu'ils se rencontrent pour de vrai et se retrouvent de plus en plus nombreux au cœur de l'abbaye de Fleur F, jusque dans un petit village nommé le village des possibles. Un petit village où fourmillent femmes et hommes avec et pour lesquels un autre monde est possible. Alors des rencontres, des coopérations, luttes et rêves, installations, formations, transmissions, récup et libre, création, action. Dans ce village, ils s'aiment. Oh oui, ils s'aiment fort pour entamer une transition et ouvrir la voie à un autre monde. Mais un autre monde que ce monde de brut, c'est possible, or not possible, that is the question. Nous vous proposons pendant une heure de sentir quelques voies d'espérance concrètes et prendre la route vers toute autre chose, mais pas n'importe quoi, en direct du village des possibles au cœur de Fleur F. Et pour faire le chemin, nous recevons sur le plateau Jérôme, coordinateur du village des possibles et responsable de la thématique. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Ça va?
Très bien.
Tu n'as pas trop couru pour arriver en retard?
J'ai couru pour arriver en retard, ouais.
Et avec Jérôme, nous avons d'abord Gaëlle et Chris d'Alternativa. Bonjour.
Bonjour.
Et à côté, nous avons Martin et Fanny de la Biscope.
Bonjour.
On va d'abord faire donc le début d'émission pour te libérer assez vite, selon ton programme.
Très bien.
L'idée, c'est de partir un petit peu, expliquer aux auditeurs aussi la nouvelle version du Village des Possibles, comment il grandit, comment il se fait tout au long de l'année.
Tout à fait.
Et puis en deuxième partie d'émission, on discutera avec Alternativa et Biscope.
Alors on est parti sur le village de façon générale. C'est quelque chose de particulier, un classique made in Esperanza qui évolue d'année en année. Et à chaque fois, il y a pour fil rouge la rencontre entre les citoyens engagés d'un côté et l'ouverture de ces projets vers d'autres publics. Est-ce que tu peux déjà nous en dire un petit peu plus sur l'histoire et le concept ?
Alors, le concept du Village des Possibles, c'est pouvoir faire rencontrer des gens qui sont investis dans toutes sortes d'alternatives locales concrètes, quotidiennes, qui répondent à des besoins quotidiens dans plein de thématiques différentes. Donc, c'est-à-dire l'alimentation, le transport, l'habitat, Internet, les multimédias, les médias en général, la santé, l'école. Et dans le Village des Possibles, se rencontrent tout au long de l'année durant des réunions, des activités, des animations, des citoyens qui viennent d'un peu partout, qui sont investis dans un peu dans différentes thématiques et qui, durant le festival, ont plein d'animations, parfois ensemble. On essaie d'encourager les synergies et qui présentent du coup comme un aboutissement ces projets-là au public. Et effectivement, pour la plupart d'entre eux, et on s'en est rendu compte il y a quelques années, c'était le seul endroit où ils pouvaient rencontrer des gens investis dans d'autres thématiques que les siennes ou en tout cas qui étaient étendus sur un autre territoire. Et donc on s'est dit, ces dernières années, on va saisir cet enjeu-là, on va essayer de pouvoir mettre des projets ad hoc et en dehors du festival pour travailler cette fibre de rencontre et de carrefour entre des citoyens engagés un peu partout.
Il y a pas mal de nouveautés cette année dans le Village des Possibles. C'est vrai que ça s'agrandit à chaque fois. On a l'impression, ouais, que la famille s'agrandit. On a d'abord Alternativa et Biscope. Scope qui sont là avec nous sur le plateau. Qu'est-ce qu'on a d'autre selon les thèmes? Tu disais Habitat, tu disais Récup, tu disais Internet.
Ouais, alors effectivement, par exemple, pour Internet, c'est nouveau. Cette année, c'est Abeli, c'est un collectif de citoyens qui travaille sur la dégooglisation d'Internet, qui travaille aussi sur la sensibilisation des données privées et personnelles qui circulent sur le web et qui sont transmises à des multinationales, entreprises ou entreprises de publicité, et qui donc voilà, donnent des outils très pratiques et très concrets pour pouvoir se réapproprier son outil net et la vraie liberté sur le net. On a une autre nouveauté cette année, c'est la coopérative Kids and Wind. C'est une coopérative, une coopérative citoyenne, une éolienne tenue par des enfants, exactement.
Donc, et pour de vrai,
oui,
réellement,
en fait, alors,
ceux qui gèrent
il faudrait les inviter pour voir exactement comment ça se passe, mais sur le principe, c'est l'idée qu'effectivement les enfants sont coopérateurs sur le papier, accompagnés effectivement par des adultes porteurs de projets, et eux-mêmes du coup sont porteurs d'une certaine parole par rapport à cette éolienne, et du coup il y a un enjeu environnemental global qui est directement lié, et différents projets, parce que la coopérative a plein d'autres projets, plus d'éducation permanente sur le territoire aussi. Dans les petits nouveaux, on a trois médias, Kairos, Poiscaille et Krasny. L'année dernière, on s'était dit qu'on n'a pas assez de médias alternatifs. Cette année, on a mis le paquet. Krasny qui vient avec une expo photo, Poiscaille qui est un journal satirique liégeois. Et,
l'expo photo, excuse-moi, je te coupe, qu'on peut voir donc juste en fait, qui longe la descente pour aller au village.
Exactement, tout à fait. Et qui est une expo photo qui retrace les luttes sociales en Belgique et en Europe ces trois dernières années. Et c'est un collectif de photographes bénévoles et qui en fait photographie ou disons couvre médiatiquement des événements qui ne sont pas généralement couverts par la masse média. Et alors il y a Kairos qui est un journal aussi Slow Press qui prend le temps de creuser des dossiers dans une optique plutôt décroissante. Et alors on a évidemment comme autre nouveau, le vrai nouveau, c'est tout autre chose, qui est là en tant que guide du Village des Possibles. Et une toute autre école, donc un des projets de toute autre chose, qui vient proposer des alternatives politiques aux projets d'enseignement qu'on nous propose en communauté française.
Peut-être que, justement, sur toute autre chose, on en a parlé hier un petit peu à l'antenne.
Ouais,
peut-être que tu peux refaire un petit topo en une ou deux minutes pour expliquer aux auditeurs qui ne connaissent pas.
En une phrase, du coup, pour évidemment éviter de me répéter, ce que j'ai dit hier. C'est un mouvement citoyen qui est né en regard avec Hart Bovenhart en Flandre, qui est exactement le même mouvement citoyen, donc né en décembre 2014 pour lutter contre les mesures d'austérité et en même temps proposer des alternatives, et le tout en lien avec tout le mouvement associatif en Belgique.
Du coup, toutes les associations, tous les collectifs qui sont aujourd'hui sur le Village des Possibles sont liés forcément à toute autre chose, mais pas n'importe quoi ?
Non, pas nécessairement. Alors, comme vous allez vous en rendre compte, il y a pas mal de gens qui sont investis dans le Village des Possibles, dans une alternative ou l'autre, qui ont plusieurs casquettes. Donc certains, via l'une ou l'autre casquette, ont été investis dans toute autre chose. Mais certains collectifs citoyens n'ont pas été engagés directement dans le mouvement. D'autres, oui. Il n'y a pas des facteurs qui peuvent expliquer tel ou tel engagement dans le mouvement, mais c'est clair que toute autre chose a avant tout regroupé pas mal de plateformes associatives globales qui avaient des enjeux politiques globaux, donc sur la coopération développement, sur le droit pénal, sur la migration, sur les travailleurs évidemment beaucoup, tout ce qui est associé à l'éducation permanente beaucoup. Et dans le Village des Possibles, on retrouve essentiellement des acteurs très très locaux, très très concrets dans les alternatives, et pas mal de gens qui ont choisi justement de s'engager dans ce type de projet parce qu'ils n'étaient pas en lutte. Or, toute autre chose reste quand même en lutte.
D'accord.
Donc ça, c'est évidemment intéressant à creuser avec eux. Mais par contre, on a réussi, via les différentes locales de toute autre chose, à connecter des citoyens investis dans le mouvement, toute autre chose, avec ces alternatives locales-là. Et ça, c'était un des enjeux principaux. Donc c'est ces alternatives en transition liées à des citoyens engagés pour des enjeux politiques.
Hier, tu disais que toute autre chose, mais pas n'importe quoi, fédérait quand même pas mal, du coup, les associations et les collectifs de citoyens ici maintenant sur le territoire. Comment ça se fédère, le Village des Possibles, dans l'année ? Comment, justement, ça se construit, ce réseau, puisqu'il évolue, il y a des nouveaux ? Comment, par exemple, Biscope et Alternativa sont arrivés dans la famille ? Comment ça s'organise ? Et puis ensuite, sur le Village des Possibles, concrètement, en direct, il y a les AG le matin, si vous pouvez nous faire un petit topo là-dessus.
Je réponds aux deux questions. Alors, pendant l'année, c'est un réseau. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un projet qui est lié à un autre projet. Et du coup, on découvre cet autre projet. On dit, ah, mais ce serait intéressant que ce projet-là vienne. Typiquement, Biscope, ils en parleront mieux que moi, mais ils sont très liés au réseau ADES qui est arrivé l'année dernière. Et du coup, bam, boum, Biscope arrive cette année. Et donc, l'idée, c'est étendre ce réseau pendant l'année. Et pendant l'année, le travail, c'est effectivement... Et c'est pas facile, organiser des rencontres un peu partout, parce que c'est des activités qui sont fort décentralisées, donc un peu partout en Belgique, là où elles sont, pour permettre cette rencontre-là et aller au-delà de la rencontre pour préparer pratico-pratiquement le festival, quoi. Ta deuxième question par rapport à l'organisation.
À l'organisation, voilà, vraiment en direct, comment ça se passe une fois que les collectifs arrivent. Il y a une vraie vie en fait dans le village. C'est pas chacun dans son coin, c'est ensemble, c'est un collectif.
Voilà, c'est ce qu'on essaie de travailler. On a commencé hier par une grande auberge espagnole où on invitait justement les différents collectifs à se rencontrer. Puisqu'un des grands enjeux du Village des Possibles, c'est avant tout la rencontre entre ces différents citoyens-là. Il y a 480 personnes qui sont sur le Village des Possibles pendant 3 jours. Et donc s'ils ne se rencontraient pas, on passerait quand même à côté. Quelque chose. Donc on met en place effectivement différentes activités. Il y a eu la petite fête hier. Ce matin, on a eu une première assemblée générale. Tous les jours, on a une assemblée générale à 11h30. Alors aujourd'hui, c'était très transversal. Donc on donnait les thématiques qu'il y allait avoir. On donnait comment le village allait s'organiser. Mais par contre, chaque collectif est invité à se présenter auprès des autres. Pour un quart d'entre elles, ont des activités qui sont justement sur cet amphithéâtre au centre et qui appellent essentiellement les autres collectifs à les rejoindre pour pouvoir honorer cette activité-là.
D'accord. Il me semble aussi juste que dans le Village des Possibles, de temps en temps, il y a des artistes qui descendent.
Tout à fait. Puisque c'est un peu le lieu qui connecte culture art avec militance et engagement de terrain. C'est pour moi, évidemment, je suis un peu subjectif, mais un des lieux à Esperanza qui représente le plus la constellation de valeurs qu'est Esperanza, c'est-à-dire effectivement la culture, effectivement une programmation musicale, mais vecteur de changement social. Et donc les artistes, pas tous, certains, viennent et acceptent de descendre de scène pour revenir dans le Village des Possibles, rencontrer les gens, discuter avec eux et faire 2-3 chansons en mode un peu roots, acoustique pour le public. Et c'est des moments très spontanés, parfois hyper informels, super sympas. Ouais.
Est-ce que tu sais déjà qui va venir au village cette année ? Certains artistes, est-ce qu'on peut le dire ?
Ouais, alors, on a aujourd'hui normalement, mais bon, ça semble compromis, mais normalement, il y a KR de Starflam qui vient dans le Village des Possibles.
Ouais. Quelle heure ?
Normalement, ce serait vers 20h,
d'accord.
On verra. Il y a Shugoy Blues qui viendrait, Xamanek dimanche. Alors pour les Moshelan et Recital Boxon, d'accord. C'est sûr. Voilà, pour les autres, j'ai plus les noms en tête, mais il y en aura d'autres.
Gaël et Chris, Alternativa, avant qu'on commence l'interview plus sur le fond, la forme, vous êtes arrivés, ils nous racontaient comment justement le collectif se crée, comment les nouvelles assos et les nouveaux collectifs rejoignent la famille dans l'année pour se rencontrer réellement, concrètement à Esperanza. Comment elle s'est faite, vous, la rencontre avec Esperanza justement ?
L'année passée, on était déjà présent en plus petit comité, mais donc l'histoire a commencé l'année passée. On avait, en fait, le but d'Alternativa, c'est un peu faire un village des possibles, mais à Bruxelles. Et on avait lancé donc un appel à différentes associations. Et donc il y a Jérôme et Anne qui nous ont contactés en disant si on voulait être sur le village des possibles, qu'on était les bienvenus et que eux seront également présents sur Alternativa.
Vous connaissiez déjà le festival indépendamment du village des possibles et de ce qui se passe ?
Moi pas du tout. Non.
D'accord.
C'est via Alternativa que j'ai appris à connaître le village des possibles.
Non plus et Alternativa non plus, je connaissais pas en fait.
D'accord.
Je connais depuis une semaine.
Ah génial.
Donc, et on m'a proposé de venir à Esperanza avec Alternativa, et donc j'ai accepté quoi.
Super, pour prendre la température, pour s'engager et faire du terrain, chouette.
Voilà.
Vous, du coup, vous êtes arrivés un peu par le réseau ADES, Martin et Fanny, comment elle s'est passée la rencontre avec Esperanza ? On est entre nous, allez-y, hein, Martin ou Fanny, peu importe.
Mais non, du coup, en fait, la Biscope est née au sein du réseau ADES, et du coup, c'était un peu une suite logique, quoi. Du coup, il y a pas mal de gens, en fait, c'est un peu les mêmes porteurs au sein du réseau ADES et au sein de la Biscope. À la base, et du coup, c'est comme ça que c'est né, quoi. On était présents au sein du réseau ADES.
C'est en fait entre Alternativa, réseau ADES, CNCD, enfin tout ça, tout est un peu lié finalement. Hein.
Et d'ailleurs, la Biscope sera présente Alternativa à Bruxelles.
D'accord. Et bien justement, on va peut-être faire un petit. Savoir un petit peu ce qui se passe dans ce Alternativa.
Est-ce qu'on fait ça maintenant ou est-ce qu'on fait une petite pause musicale avant?
On fait une petite pause musicale avant.
On s'écoute Fada Freddy
qui a ouvert le festival tout à l'heure à 16h sur la scène Côté Jardin.
Ça vient de se terminer et c'est parti.
Slow down, take your time, it'll be alright. If you decide to take it on the signs, take it easy, slow down, take your time, it'll be alright. If you decide to take it on the signs, take it easy, slow down. Well, I understand life isn't your friend, and it's so hard sometimes. But guess what? You're not the only one. The door is shut, but so is your mind. Well, I understand life isn't your friend, and it's so hard sometimes. But guess what? You're not the only one. The door is shut, but so is your mind.
Possible or not possible, c'est reparti sur Radio Esperanza. Radio Esperanza que vous écoutez sur 106.2 à Floref ou sur radio.esperanza.be. Pour cette deuxième partie de l'émission, on va un petit peu s'intéresser à certains des stands du village des possibles. Donc on va commencer avec Alternatiba. On en a beaucoup parlé cette année d'Alternatiba, surtout en France, mais on commence à en entendre discuter un petit peu en Belgique. Peut-être que Gaëlle, tu peux nous faire une petite présentation ?
Oui, tout à fait. Alors, Alternatiba, en fait, c'est un village des alternatives où on regroupe tout collectif, individus, citoyens, associations qui proposent des alternatives concrètes au changement climatique. Et donc, comme tu l'as bien dit, c'est un mouvement qui est né en France, à Bayonne, en 2013. Ça a été un succès énorme. Il y a eu 12 000 personnes sur le village. Et du coup, ils ont lancé un appel à faire des alternatives un peu partout en Europe, qui ont comme échéance la COP21 qui aura lieu cette année à Paris. Donc, en décembre.
La COP21, on le rappelle, ce sera le grand sommet des Nations Unies pour conclure un accord pour limiter le réchauffement climatique. Il va y avoir un petit événement à Bruxelles bientôt, je crois, en septembre.
Oui, donc Alternatiba Bruxelles, ça aura lieu le 12 et 13 septembre. Et donc, on a 8 thématiques sur notre village. On a l'énergie, l'écohabitat, l'alimentation. On a aussi la mobilité, le climat et la paix internationale, la démocratie, les finances et biens et déchets. Donc, il y en a pour tous les goûts.
On appelle ça beaucoup aussi le tour Alternatiba. Donc, en fait, beaucoup sont partis en vélo de Bayonne, il me semble, à un moment donné.
Oui, donc ils sont partis le 5 juin dernier. Ils font 5000 km pour le climat. Et le but, c'est de passer par les villes qui ont fait des Alternatiba et de sensibiliser les citoyens aux problèmes du climat.
Et donc, comment ça se passe? Ils se baladent avec le village sur les vélos?
Non. C'est une équipe fixe qui est partie de Bayonne. Donc, ils sont 8 qui vont faire le tour. Et le but, c'est de promouvoir les gens qui sont sur place, qui organisent les villages. Donc, ils sont en contact avec les gens dans différentes villes. D'ailleurs, ils vont arriver dimanche soir ici à Esperanza. Et le 3 août, ils seront à Bruxelles et ils font une conférence. Et donc, on sera présents aussi là-bas.
Et donc, concrètement, comment ça se passe? Ils arrivent dans les villes et ils installent le village. Comment la communication, elle se fait aussi avec les territoires sur lesquels ils viennent, vous venez vous installer?
Ils n'installent pas de village, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils font des petites conférences ou bien ils font des petites actions. En fait, pour nous, c'est un peu faire de la communication parce qu'ils passent le 3 août et nous, c'est une occasion pour nous pour faire de la pub, pour nous, pour dire que le 12 et 13, il y aura le village Alternatiba et qu'eux, ils en ont déjà fait un. Ils sont passés par plusieurs villes. Donc, ça fait un lien aussi entre tous les Alternatiba qui ont lieu un peu partout en Europe.
Et donc, à côté de Gaëlle, nous avons également Fanny et Martin de la Biscop. Lisette, je sais que tu aimes beaucoup, dans toutes ces questions d'alternatives, voir comment on va passer des bonnes idées à leur mise en application,
comment on fait
des expériences concrètes. Et moi aussi, d'ailleurs. Et Biscop, c'est un bon exemple de ça. Le projet est encore assez jeune, mais il est quand même lancé. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, cette coopérative?
Alors, le projet a été lancé il y a à peu près un an et demi. Notre idée de base était de trouver une alternative à la grande distribution. Et donc, on s'est dit qu'on allait créer notre supermarché nous-mêmes. Et donc, on fait une coopérative. Donc, on fait un supermarché coopératif et participatif. Donc, l'idée du modèle est de créer une coopérative où tous les coopérateurs qui ont accès au supermarché prennent 3 heures de leur temps par mois pour travailler au sein du supermarché, ce qui permet de diminuer les coûts de tous les produits qui se trouvent dans le supermarché. Et en fait, c'est un modèle, donc à la base, en voulant chercher une alternative à notre modèle de consommation, on a un peu regardé ce qui existait ailleurs pour pouvoir s'inspirer et on a trouvé ce modèle-là de coopérative participative qui existe à New York depuis les années 60, je crois, et qui fonctionne super bien. Et il y a un projet similaire qui est en train de se lancer à Paris aussi pour le moment. Ils sont un peu plus avancés que nous.
Donc d'abord, il y a eu le groupement d'achat où vous vous mettez à plusieurs pour acheter des produits. Et le projet de supermarché, c'est quelque chose qui arrivera à terme, hein, c'est ça?
Oui, du coup, là, on a lancé ça il y a un an. Le groupement d'achat, ça fait un an. Donc c'était vraiment pourquoi? C'était pour tester la dynamique coopérative. Du coup, voir si les gens étaient prêts à mettre 3 heures de leur temps par mois pour venir confectionner des paniers, pour venir faire de la comptabilité, pour essayer de faire toutes les tâches qu'on ne devrait pas faire, quoi, que tout le monde devrait faire. Et ça nous permet quoi aussi? Ça nous permet de nous tester, nous, au métier de la grande distribution, parce qu'on n'est pas du tout distributeur. Du coup, il faut comprendre comment ça fonctionne, la relation avec les producteurs, tout ça, et de tester les produits. Parce que, en fait, ce qui est important de dire aussi, c'est que l'objectif de la Biscop, c'est de rendre l'alimentation durable plus accessible à tous. Donc en fait, notre constat, c'est qu'on a remarqué qu'il y a pas mal d'alternatives qui existaient déjà, notamment les GAC, les GAZAP, tous ces circuits courts, mais que généralement, ils arrivent à toucher qu'une partie, une partie plus aisée de la population. Du coup, notamment parce que le prix, il n'y a pas que le prix qui influe, mais le prix est vraiment beaucoup plus élevé dans une épicerie bio. Il y a aussi toute une frontière culturelle. Et en fait, avec le modèle de supermarché et pas d'épicerie, on veut casser le gap culturel. Dire qu'il ne faut pas venir dans une petite épicerie confinée, mais c'est un supermarché où tout le monde vient.
Alors, je crois justement que le projet de supermarché, l'idée c'est de l'implanter dans un quartier populaire à Bruxelles, hein, c'est ça ?
Exactement. Donc là, pour le moment, on aime beaucoup la commune de Schaerbeek, parce que la commune de Schaerbeek, parce que notre groupe d'achat est là-bas et parce qu'on a déjà pas mal de coopérateurs qui sont implantés là-bas. Et on la trouve assez intéressante en termes de mixité sociale parce qu'il y a vraiment... Deux Schaerbeek, nous on appelle souvent le Schaerbeek du haut et le Schaerbeek du bas. Mmh. Et on a trouvé un local, a priori, vraiment à la jonction entre le Schaerbeek du haut et le Schaerbeek du bas.
Moi, je suis française, alors nous, on a des coopératives aussi chez nous, mais ça ne fonctionne peut-être pas de la même manière. Quand vous dites coopérateur, c'est quoi le statut du coopérant au niveau légal? Comment ça se passe? Est-ce qu'on est associé de la coopérative ou est-ce qu'on est juste travailleur bénévole? Moi, j'aimerais bien savoir, voir comment ça marche par rapport à la France, justement.
En fait, c'est un modèle de coopératif qui n'existe pas encore ni en France ni en Belgique. Donc, d'accord. On est en train d'implanter ça en Europe. Et donc, le modèle, c'est vraiment que la personne, le membre, a une triple casquette. Il a la casquette du propriétaire. Du coup, pour venir, il achète une part de la société. Mm-hmm. Donc, on aura des parts a priori à 100 euros et des parts à 10 ou 20 euros, notamment pour l'accessibilité sociale.
On peut avoir
sociale.
Différentes parts.
Il y a
parts.
Différents types de parts, mais d'accord. Ils donnent toujours sur le principe coopératif de un homme, une voix.
Tout à fait.
La deuxième casquette, il est travailleur. Mmh. Donc, c'est-à-dire qu'il doit prester ses 3 heures par mois, ce qui permet de réduire les coûts.
Mais il est travailleur bénévole.
Il est travailleur bénévole, oui.
D'accord, donc il y a un statut de travailleur bénévole.
En fait, c'est ça qui n'existe pas encore dans
c'est
les
ça.
Coopératives.
D'accord.
Et du coup, là, on est en tout cas en Belgique et en France aussi, on est dans un flou juridique. Donc,
tout
la législation est différente. Je sais bien qu'en France, ils sont passés via les associations de parents de crèche, un truc dans le genre. Et nous, on est en train de faire du plaidoyer politique aussi pour faire reconnaître ce nouveau modèle qui naît et qui répond à un besoin.
En fait, clairement, ouais, l'utilité sociale de chacun qu'on peut avoir finalement au quotidien ouais. Par rapport à l'endroit où on vit.
D'accord. Et alors, pour terminer, les 3 casquettes, la dernière casquette, c'est la casquette de consommateur, donc de venir acheter au sein du supermarché qui est son supermarché aussi, vu que la personne est impliquée parce qu'elle a une part et parce qu'elle y travaille.
Du coup, vous travaillez avec des producteurs locaux de Belgique ou de la région de Bruxelles, puisqu'elle va être implantée à Bruxelles. Comment ça se goupille en termes de...
On essaye de travailler au maximum avec les producteurs locaux et en contact direct. C'est un gros travail, donc ça, c'est encore vraiment en cours d'élaboration. On prend des contacts et tout ça. Au niveau des produits, on n'a pas envie de choisir... C'est encore aussi en travail. On n'a pas encore choisi tous nos produits et tout ça. Mais pour ce qu'on a envie, c'est de surtout pouvoir informer le consommateur de ce qu'il consomme et pas nous choisir à la place. Enfin, et pas choisir pour tout le monde. Et donc, on a inventé un système d'étiquettes pour tous les produits, donc, qui est aussi encore en cours de construction. Et donc, sur les étiquettes, il y a différents critères. Il y a le mode de production... l'endroit où il est produit, si c'est un produit biologique ou pas.
Et si c'est en filière courte.
Ah oui, c'est ça.
C'est ça.
Et donc, c'est à chaque fois avec des petits dessins et des couleurs. Et donc, chaque dessin représente un critère. Et puis, la couleur montre, par exemple, pour l'endroit où c'était produit dans le monde, en Europe, en Belgique ou à 70 km à la ronde.
Tu disais... une de nos missions, c'est aussi d'informer le consommateur sur ce qu'il mange ou ses produits, quelle manière, tout ça. Est-ce que vous voyez arriver des nouveaux profils un petit peu de citoyens, justement, qui, à la base, ne font pas forcément partie, justement, des milieux un peu de collectifs, d'associations, qui sont un peu engagés, parce que c'est toujours un peu la difficulté. On en discutera peut-être avec Alternative après. On a une question à ce sujet-là. Mais est-ce que vous voyez arriver, là, dans la construction du projet, des profils qu'on n'attend pas forcément sur ces questions?
Ben oui, quand même, parce que l'avantage avec l'alimentation, c'est que ça touche tout le monde, parce que tout le monde mange. Donc, et que l'alimentation a quand même beaucoup d'impact, autant au niveau environnemental, mais au niveau de la santé aussi. Et donc, chacun en tant qu'individu est vraiment concerné, ne fût-ce que pour sa propre santé, par la qualité de son alimentation. Donc, ça permet de toucher un public super large, qui est quand même encore quelque chose à construire aussi, parce que les premières personnes touchées sont les personnes déjà averties et informées. Mais
et puis les entrées, elles sont différentes. Enfin, l'entrée de discussion, de rencontre avec les personnes, elle peut se faire sur l'alimentation, sur la santé, sur l'économie que ça peut procurer à chaque citoyen d'être en coopération et de mutualiser les achats. tout ça, d'accord.
Mais on travaille beaucoup avec les associations de Schaerbeek, du terrain, qui connaissent les populations qu'on veut viser. Donc là, on est vraiment en partenariat avec eux pour construire sur le long terme une relation où nous, on pourrait devenir le fournisseur et eux pourraient nous aider à mieux communiquer et mieux nous faire connaître auprès de leur public.
La Biscope, sur Festival Esperanza, vous êtes déjà en coopérative ou vous êtes aussi une association à côté, vous, que vous avez quel statut à l'intérieur?
Pour le moment, on est en ASBL et on est en train de rédiger les statuts de la coopérative.
Donc vous êtes tous des bénévoles ou il y a des salariés aussi comme... Non, j'imagine pas encore.
Il n'y a pas encore de salariés. On a reçu des bonnes nouvelles, on a eu 2-3 subsides de la région de Bruxelles Capitale.
Super, bravo.
Qui vont nous permettre de professionnaliser et de vraiment de rester bien dans la durée. Quoi.
D'accord. Bon. Vas-y.
Donc ça, voilà, c'est très concret, c'est très efficace sur le terrain. Et là, je vais aussi me retourner vers Gaël d'Alternatiba. Comment vous comptez un petit peu vous y prendre pour essayer d'élargir les cercles auxquels vous allez vous adresser lors de l'événement de septembre et ne pas parler qu'aux gens qui sont déjà dans des réseaux militants?
C'est ça, qui sont déjà sensibilisés ou concernés, c'est ce qui est un peu le plus difficile. On est souvent entre soi finalement, entre les assos, les collectifs, les engagés. Comment on sort du cadre en fait?
En fait, Alternatiba, on va faire de l'Alternatiba un événement festif. Donc, il y aura des activités culturelles, il y aura des concerts. On a HKL et Saltabank qui vont venir.
Ah, on lâche rien.
Voilà, on lâche rien. Il y aura des expositions. Donc, le but, c'est que les gens viennent aussi en famille. Il y aura un espace pour enfants. Donc, ça ressemble en fait très, très à Esperanza. Et c'est comme ça qu'on essaye de toucher des cercles qui ne sont pas forcément engagés et qui ne sont pas encore sensibilisés aux problèmes, mais qui viennent tout simplement passer un bon moment et puis qui se frottent aux citoyens engagés. Quoi.
Mais justement, en parlant de ça, aussi des citoyens engagés, comment vous êtes venu à l'engagement? Comment ça vous est venu? Alors, c'est une question pour tout le monde. Gaëlle, toi par exemple, de quel milieu tu viens? Comment, à un moment donné, il y a le déclic qui fait qu'on s'engage dans une association, dans un combat, dans une lutte? Comment ça t'est venu, tout ça, cette histoire?
J'ai aucun mérite en fait, parce que c'est mes parents en fait qui sont militants depuis une trentaine d'années. Donc je suis née dedans, je suis née dans le militantisme.
Et t'aurais pu être dégoûtée, des fois ça arrive.
Oui, non mais pas du tout. et depuis, en fait, ça a commencé en 2013 surtout, quand je suis partie à la COP19 qui avait lieu à Varsovie. J'ai pris le train avec le Climate Express. Et du coup, c'est par là que j'ai rencontré aussi Alternatiba et j'ai décidé de m'engager là-dedans parce que c'est vraiment un super projet qui touche plein de monde et c'est un sujet qui est très sensible et on a besoin, il y a une certaine urgence aussi. Donc on fait de notre mieux, quoi.
Et vous,
Martin et Fanny?
Mais ouais, je pense que c'est une question très personnelle, mais... J'ai l'impression qu'on a tous une petite flamme en nous. Enfin, tous les gens qui vont commencer à s'engager et militer, on a tous une petite flamme en nous qui va être allumée de différentes façons, quoi. Pour ma part, moi, c'était plutôt aux études. J'avais déjà cette flamme où je sentais déjà une différence avec à l'école secondaire où j'avais moins des gens qui pensaient à remettre en question certaines choses ou certains acquis. Et là, j'ai fait des études de sociologie et on est arrivé à la fin de nos études on s'est vraiment engagé. On a construit un réseau de potes. On a beaucoup bossé à la GL, à la FEV, dans les quotas projets, à Louvain-la-Neuve. Et de là est né, après nos études, on avait toujours envie de garder ce lien entre nous. Et du coup, on a fondé le réseau ADES, pour des alternatives démocratiques, écologiques et sociales, qui se veut un réseau assez large, mais qui permet de connecter différentes ambitions et de faire naître aussi des projets tels que Biscope.
Gaël?
Oh là là, j'ai un problème, moi.
On revient Fanny. Avec Fanny. Donc.
Mais moi, ma réponse va être la même que Martin, en fait.
Vous étiez dans la même bande?
Oui, je fais la sociologie dans la même université, pas exactement dans la même année, mais finalement, c'est aussi l'aspect collectif qui nous a fort porté tous et cette envie de continuer à construire des choses ensemble et créer des alternatives.
Et du coup, comment vous allez chercher, là, actuellement, j'ai du mal à imaginer encore comment vous allez chercher les coopérants, enfin les futurs coopérateurs, les nouvelles personnes qui vont venir dans le projet de coopérative, de supermarché coopératif. Comment vous allez les chercher? Comment vous les rencontrez? Est-ce que vous êtes en partenariat avec d'autres assos? Enfin, comment ça se passe sur le terrain?
Mais pour le moment, toutes les personnes qui sont impliquées dans le projet, donc dans le groupe d'achat, c'est principalement par du bouche à oreille, parce qu'on n'a pas du tout encore lancé de grandes campagnes de com. Il y en a une qui arrive au mois de septembre. Et donc là, c'est vraiment les gens qui en entendent parler par leur bouche à oreille. On a une page Facebook et tous les mois, on fait une séance d'information. Mais c'est tout ce qu'on fait. C'est tout ce qu'on fait comme, c'est via Facebook. Donc c'est principalement du bouche à oreille, ce qui montre quand même qu'il y a pas mal de personnes motivées et intéressées uniquement via du réseautage.
Et je crois que vous ne nous avez pas dit, mais le projet de supermarché, l'idée c'est que ça se concrétise dans combien de temps ?
Printemps 2016.
Printemps 2016, donc
ça dans 3 mois de battement.
D'accord, ça arrive vite quand même.
Ça va arriver vite, ouais. On a pas mal de boulot à faire encore.
Il y a un supermarché comme ça qui est en train de se faire aussi à Paris, la Louvre, je crois que ça s'appelle. On en discutait hors antenne tout à l'heure. Du coup, vous êtes en lien, comment ça s'organise ? Est-ce que vous vous connaissez ? Est-ce que vous travaillez un peu ensemble ?
Ouais, on est vraiment en lien. On est en lien aussi avec la Park Slope Food Coop à New York. La Louvre, il recopie fort le modèle de la Park Slope Food Coop. Et oui, on est vraiment en lien avec eux parce qu'il y a moyen de faire vraiment beaucoup de synergie en termes de producteurs, en termes par exemple de développer un logiciel intégré de gestion de magasins avec un logiciel libre qui s'appelle Odoo. Mm-hmm. Du coup, tout ça, c'est des choses qu'on peut mutualiser parce qu'on a les mêmes besoins. Voilà, en termes de gouvernance, par exemple, on parle beaucoup de voir comment eux fonctionnent avec leur groupe, comment nous on fonctionne. Et ils sont un peu plus âgés que nous. Enfin, ils ont 5 ans, ça fait 4 ans qu'ils sont en groupe d'achat, eux. Nous, ça fait qu'un an. Du coup, ils ont déjà un peu plus d'avance, notamment en termes de relations avec le producteur et tout ça.
Et là, on parle juste des plus gros projets, mais il y a pas mal de projets aussi, d'épiceries coopératives et participatives et des plus petits magasins qui se lancent, avec qui on est en contact aussi. Et on est vraiment dans une idée de partage d'infos, et autant qu'il y a un max de magasins comme ça qui émergent.
Ouais.
Martin, à l'instant, tu parlais de mutualisation. J'imagine que l'idée, c'est aussi de réduire les frais. Et ça, moi, ça m'amène une autre question. Ça, c'est, est-ce qu'avec ce modèle, vous réussissez à proposer des produits, n'importe quel type de produit, à des prix qui seraient l'équivalent d'un supermarché classique ? Ou mais pas trop supérieur, quoi.
C'est vraiment la grosse question. Et c'est notre grand... c'est là qu'est tout le défi de la Biscope, en tout cas, de trouver... de respecter toutes ces valeurs qui pourraient paraître un petit peu antagonistes entre d'une part l'accessibilité sociale et d'une part le respect des producteurs. Et du coup, nous, on doit vraiment essayer de faire, de mettre tout ça et d'essayer de trouver le point de convergence entre toujours respecter le producteur mais avoir l'accessibilité sociale. Alors comment est-ce qu'on va faire ? On va beaucoup travailler en vrac par exemple, sur la réduction des emballages, aussi pour la question environnementale mais aussi pour le gain économique qu'on a. On travaille en filière courte un maximum et c'est l'idée d'être un supermarché et pas une épicerie. C'est aussi pour avoir du volume d'achat qui est plus conséquent. Et voilà. Et par exemple, notamment avec les autres épiceries, on a un réseau et ça nous permet aussi d'acheter ensemble, par exemple, de faire venir, de monter une palette d'Italie avec que des pâtes. Mais ça coûte beaucoup moins cher si on est beaucoup acheté 5 palettes de pâtes, quoi, pour avoir des prix.
Et vous estimez qu'il vous faudrait à peu près combien de coopérateurs pour que ça fonctionne, pour avoir des volumes suffisamment importants ?
Sur le business plan, là, sur le plan financier qui est à l'étude, à l'année 3, on aimerait bien avoir 2000 coopérateurs.
D'accord. Et actuellement, vous êtes ?
On est à 200-250.
Il y a 200 foyers qui sont membres du groupe d'achat.
Donc, il y a encore du travail et vous en reparlerez dans la campagne de communication en septembre.
Tout à l'heure, tu parlais des modes de décision à l'intérieur de la coopérative, il y a quelques minutes. Chez Alternativa, du coup, comment ça s'organise ? Parce que c'est vrai que c'est chouette d'avoir envie de mettre en place des alternatives, de les communiquer, de les partager, de changer le monde. Mais du coup, comment on change le monde à l'intérieur de ses propres collectifs aussi ? Comment ça marche ? Est-ce que c'est transversal, horizontal, complètement vertical ? Enfin, on dit ça en France. Je ne sais pas comment on dit en Belgique. Du coup, voilà, comment ça se passe le modèle décisionnaire participatif à l'intérieur d'Alternativa ?
Alors, on est tous bénévoles. Mm-hmm. On est tous au même statut, en fait. On a un groupe de coordination et puis on a les groupes thématiques, donc comme j'expliquais tout à l'heure, l'énergie, l'éco-habitat, qui s'organisent chacun de leur côté et puis ils se rejoignent à la coordination. Et on est tous au même niveau et il y en a qui sont plus engagés que d'autres, il y en a qui viennent plus souvent en réunion, il y en a d'autres qui sont plus actifs sur le terrain. Enfin,
quand il faut décider, comment ça se passe ?
À la coordination, si quelqu'un a une question ou quelqu'un a un doute, on vient à la coordination, on lance la question et on règle ça entre nous, quoi.
Et donc, il y a un conseil d'administration ou quelque chose, une présidence ou rien à voir ?
Non, c'est juste la coordination. On est tous bénévoles, on n'est même pas on est une association de fête.
C'est pas trop difficile de mettre tout le monde d'accord ?
C'est vrai qu'il y a une énorme inertie, mais coûte que coûte, on y arrive et de toute façon, on n'a pas le choix.
Non, on n'a pas le choix. Ouais. Comment ça se passe du coup sur le festival ? Parce que vous êtes donc installé dans le village des Possibles, où ça fourmille de partout. Et l'idée, c'est en fait d'amener des petites activités, des actions, des jeux pour entrer en connexion avec les festivaliers. Vous, du coup, il y avait des bombes à graines, il me semblait, où il y avait peut-être du tandem. Est-ce que ça se fait vraiment ? On n'a pas encore vu exactement. On est passé ce matin, mais voilà. Qu'est-ce que vous faites avec les festivaliers ? Comment vous créez le dialogue ?
Alors nous, on a un ours polaire.
Ah oui, c'est vrai, il y a un ours polaire, on l'avait oublié, on l'a croisé ce matin.
Donc notre activité à nous, c'est que l'ours polaire va courir derrière les banquiers de Financité.
Derrière quoi ?
Les banquiers de Financité, donc, pour qu'ils arrêtent d'investir dans les énergies fossiles. Et donc le but, c'est d'accrocher le regard, d'attirer les gens et de leur parler d'Alternatiba en parallèle, quoi, à côté. Et alors on a un tandem, en effet. Il est là et vous pouvez l'utiliser pour venir le chercher, il n'y a aucun souci. Nous, on avait déjà utilisé ça au Vert du Roc, ça avait pas mal marché.
C'est le symbole un peu du Alternatiba Tour, de toute façon.
Voilà, en fait, notre symbole, c'est le vélo à quatre places qui symbolise en fait les alternatives pour le climat, mais aussi qui symbolise le travail collectif, en fait.
D'accord. Et chez vous, à la Biscop, comment vous allez entrer en contact avec tous les festivaliers ?
Alors, on a fait un super beau stand avec des décors de supermarché, bien évidemment. Et sinon, on a deux petites activités. Il y en a une qui a un twister géant, donc c'est le jeu à terre avec les grands ronds de couleur. Il faut poser sa main et son pied. Et donc, il y a des petites questions qui sont en lien avec l'alimentation durable et avec la coopérative. Et donc, en fonction des réponses que les gens donnent, ils doivent mettre leurs pieds et leurs mains à des endroits différents. Et puis, sinon, on a aussi présenté un étal avec différents produits, autant des produits que nous, on vend, que des produits qu'on trouve dans n'importe quel supermarché. Et alors, là, justement, c'est le jeu de l'étiquette où les personnes doivent essayer d'évaluer si elles mettent pour l'origine un point rouge, un point orange ou un point vert. Et donc après, on discute des réponses qu'elles ont mises en fonction que ce soit un gel douche d'une certaine marque bio ou une canette de soda. Donc voilà.
C'est vrai qu'on s'en rend pas souvent compte parce que la plupart des gens ne font pas forcément attention aux étiquettes quand ils achètent leurs produits. Mais ce matin, on a testé avec un paquet de fa... Alors que Pascal se lâche à la technique. ce matin, on a testé avec un paquet de farine et du coup, on n'arrivait pas à trouver le lieu de production parce qu'en fait, le blé, on ne savait pas d'où il venait, ce n'était pas marqué sur le paquet. Ouais. Du coup, tu as des petites questions, non ? Vous nous avez
ramené
deux petites
questions. Oui, du coup, on a pris deux, trois petits exemples des questions qu'on pose pour le Twister. Bon, j'en ai pris d'un peu plus sérieuses, il y en a des moins sérieuses.
Non, mais on n'est pas très sérieux ici. Hein.
Donc, une des questions, c'est aussi évidemment pour lancer le débat, et donc il y a une des questions qui est combien est-ce qu'il y a de coopérateurs à l'heure actuelle dans la coopérative Park Slope à New York. Oh, voilà. Et donc les réponses...
Est-ce qu'on aura la réponse à la radio ? Ah. Moi, je suis curieux.
C'est 22 000, 3 000, 8 000 ou 16 000 ?
Je dirais 8 000.
Moi, je dirais 22 000.
Ah, bah, à l'heure actuelle, ils sont 16 000.
16 000 ouais. Et ils sont créés depuis quand, eux ?
Depuis une quarantaine d'années.
Ah ouais.
Ça marche à fond. Ils sont complètement agrandis. Je pense pas que.
Donc nous, c'est possible.
C'est pas notre objectif d'arriver jusque là pour le moment. Une chose à la fois.
Du coup, c'est complètement possible de créer une coopérative, une coopérative d'achat et de finir à 16 000. Bon, on est à New York. Enfin, on n'est pas à New York, mais bon. Et du coup, deuxième petite question.
Et alors, l'autre question, c'est pourquoi les produits de la Biscop pourraient être moins chers qu'ailleurs ? Car ils sont tous périmés, mais toujours mangeables. Car les clients travaillent dans le magasin. Car on récupère des produits invendus des magasins qui font faillite. Car on ne paye pas d'impôts.
Bah, quand bon, les clients travaillent dans la maison. Ça leur fait pas peur, d'ailleurs, le côté travailler
dans le magasin ? Justement, une des questions du Twister qui est combien de temps est-ce que vous serez prêt à mettre à travailler dans votre magasin si ça vous permet d'avoir une alimentation de qualité moins chère ? Et donc, là, il y a différentes réponses. 30 minutes, 5 heures par mois, 2-3 heures par mois, ou rien du tout. Et donc, en fonction de ça, on voit la réaction des gens.
Là, c'est 3 heures par semaine que vous demandez ou...
Non, 3 heures par mois. Enfin, ça, c'est l'idée, en tous les cas. On ne l'a pas encore vraiment testé, vu que le supermarché n'existe pas encore. Mais à New York, c'est ça. C'est 3 heures par mois.
Et ils font quoi comme type de travail ?
Toutes sortes de travail.
Ouais, ils font tout type de travail qui ne sait pas être fait par quelqu'un qui est engagé, quoi, par un employé. Ça va du réassortiment, ça va de remettre en rayon, de la compta, d'animer les réunions. Et en fait, ce qui est chouette avec le modèle, c'est qu'il y a une force de travail, vu l'obligation de travail, il y a une force de travail excédentaire qui permet d'offrir des services à la collectivité. Du coup, c'est ça aussi le modèle intéressant pour plus qu'un endroit de course, c'est vraiment un endroit de vie qu'on a envie de créer. Ou par exemple, à la Park Slope, ils ont une crèche où on vient faire des courses, il y a des coopérateurs qui vont s'occuper des enfants. Ils ont un service où quand vous faites vos courses, il y a quelqu'un qui ramène le caddie jusqu'à la voiture, comme ça vous ne devez pas revenir. Donc nous, on a vraiment envie de mettre tout ça en pratique aussi, notamment avec une oisserette, on aura a priori une cuisine à l'intérieur du supermarché où les gens, on peut faire des ateliers de sensibilisation, des ateliers à l'alimentation durable.
Gaëlle, tu voulais dire quelque chose?
Oui, pour vous dire aussi, Alternatiba, on est en stand avec le Climate Express et le CNCD. On est tous mobilisés pour la COP21. Et on a un
Contre ou pour? Pardon, excusez-moi.
On mobilise pour la COP21, pour aller à la COP21, en fait. Parce qu'on pense qu'il peut y avoir quand même des solutions qui peuvent sortir de la COP21. Mais il faut quand même qu'on sensibilise...
Faudrait changer les financeurs, déjà.
Oui, mais il faut justement qu'on crée un mouvement citoyen pour mettre la pression, en fait. C'est ça notre but. Et donc, on a un porteur de parole sur notre stand. Et la question, c'est quelle alternative vous fait rêver? Donc voilà, n'hésitez pas à venir parler avec nous de vos alternatives.
Et toi, c'est quoi l'alternative qui te fait rêver, Gaëlle?
Moi, c'est la démocratie directe. Voilà. Et Alternatiba, c'est un bel exemple, même si c'est à petite échelle, on apprend vraiment à décider ensemble. Quoi.
Chris, juste avant de partir, tu y échapperas pas. Non, mais on parlait de l'engagement. Toi, du coup, très rapidement, parce qu'il nous reste juste 2 minutes, comment tu as connu Alternatiba? Comment tu es tombé dedans, en fait, très rapidement? Rapproche-toi du micro.
Moi, en fait, je fais un service citoyen et c'est une de mes missions complémentaires.
D'accord.
Et donc, on m'a proposé de venir avec Alternatiba.
Donc, tu connaissais déjà?
Non, je ne connaissais pas du tout. D'accord. Vraiment pas du tout. Quoi. Je connais peu le milieu associatif et tout. Mis à part... Non, je ne connais pas.
Non, mais c'est très intéressant parce que c'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est comment on arrive à sortir du seul cadre des gens qui sont déjà engagés. Et du coup, le climat, c'était déjà des choses sur lesquelles tu avais un avis, par exemple ou...
Oui, bah, j'ai un avis... personnel que je fais des choses, je fais attention à la maison, des trucs du genre, des bêtes trucs, mais si tout le monde ferait ça, ça ferait déjà beaucoup, je pense. Donc et là je me suis dit je vais faire ça et sensibiliser tout le monde en même temps et m'amuser à Esperanza.
Mais ils sont carrément sympas dans ton service citoyen, ils t'envoient à Esperanza, quoi. Ouais. C'est chouette,
et
tu nous donneras l'adresse.
Et c'est où tu fais ton service citoyen, on peut savoir.
C'est le service citoyen à Bruxelles.
Non, c'est possible, donc c'est possible d'avoir des services citoyens qui t'envoient en festival pour te former, quoi.
Bah, on a fait aussi la CEMO.
D'accord. C'est quoi?
C'est un autre festival.
C'est un autre festival.
Excusez-moi, je ne suis pas belge. Je ne suis pas belle. Eh ben merci en tout cas, Chris. On arrive à la fin de l'émission.
Je voudrais juste dire, donc Alternatiba, le 12 et 13 septembre, à la place Sainte-Catherine, donc le samedi soir et le dimanche toute la journée, et c'est gratuit. Donc tout le monde est le bienvenu.
Des stands associatifs, des concerts, ça sera assez festif.
Oui, très festif.
On peut retrouver les infos sur un site internet, j'imagine.
Alternatiba.eu.
Et vous?
bis-cop.be.
Eh ben, on vous remercie beaucoup en tout cas.
Merci. Voilà. Amusez-vous bien.
Les festivaliers peuvent vous retrouver donc dans le village des possibles dès que le festival ouvre et jusqu'à ce qu'il ferme chaque matin et chaque soir. On va se quitter. On se retrouve demain à 17h30. Camille, ça va? Comment tu te sens là?
Exactement, demain à 17h30. Et maintenant, on va vous laisser avec
un petit son.
Un petit son et ensuite le retour des autochtones.
Et c'est Starflame, non?
C'est Starflame.
À l'ancienne.